auditeurs. Aujourd'hui, je veux vous parler de Jésus-Christ, qu'on a coutume de représenter attaché à la croix, mais qui depuis lors est ressuscité et est maintenant assis à la droite de Dieu le Père, le Très-Haut. La personne, la vie et l'enseignement du Christ sont le fondement de la Bible, car il était déjà une réalité avant le commencement de toute chose. La Bible révèle que Jésus-Christ était appelé la parole, et voyons ce que l'apôtre Jean en dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Beaucoup de fausses idées ont été répandues à son sujet. C'est la raison pour laquelle j'aimerais rétablir aujourd'hui quelques vérités, et ces vérités, vous pouvez les trouver dans toutes les Bibles. Pourquoi ne relèveriez-vous pas ce défi? Vérifiez donc dans les 4 biographies historiques qui traitent de sa naissance et de sa vie, et que sont les 4 évangiles. Et vous verrez si ce qui vous est dit ce matin, au cours de cette émission, est exact ou non. Pourquoi continuer à vous laisser séduire par des récits ou des légendes qui n'ont rien à voir avec la personne de ce Dieu qui est venu sur terre, en abandonnant toute sa divinité, afin de pouvoir mourir pour tous et devenir ainsi le sauveur de toute l'humanité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus fut couché dans une crèche après sa naissance? Est-ce parce que Joseph et Marie étaient pauvres, comme on l'affirme si souvent? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est parce qu'en ce temps-là, un édit de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Joseph, qui était de la maison et de la famille de David, monta de la Galilée, plus exactement de la ville de Nazareth, pour se rendre dans la ville de David, la ville de Bethléem, afin de s'y faire inscrire avec Marie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Pourquoi? Eh bien, la Bible vous répond en disant « parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ». Voilà donc la raison véritable. Si Jésus fut couché dans une crèche, dans une mangeoire pour bestiaux, juste après sa naissance, c'est parce que Joseph et Marie ne trouvèrent plus de place dans les hôtels, ceci étant complet à cause de la foule nombreuse qui s'amenait dans la ville de David pour le recensement. Joseph, qui était charpentier, habitait dans la ville de Nazareth. Et il y retourna après l'accouchement de Marie. Ce récit est tiré du 2e chapitre de l'évangile de Luc, qui nous confirme, sans aucun doute possible, que Jésus fut le premier de Marie. Si Jésus est le premier-né, c'est que sa mère eut d'autres enfants, comme d'ailleurs Matthieu le confirme en écrivant au sujet de Joseph, « Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Et si vous examinez les Écritures, vous verrez qu'il est question des frères du Christ et des sœurs du Christ. Bien entendu, ce sont ses demi-frères et ses demi-sœurs. Lisez cela vous-même dans votre Bible et n'oubliez surtout pas que quelques heures avant son arrestation, le Christ a déclaré, en s'adressant à son Père, « Ta parole est la vérité ». Par cette déclaration de Jésus, vous devez savoir que c'est le récit biblique qui est la vérité, et non pas les légendes ni les traditions qui vous bercent depuis votre enfance. Joseph était charpentier. À notre époque, un charpentier doit être capable de tracer, d'assembler et de réaliser une charpente en bois. Mais en ce temps-là, un charpentier était pour ainsi dire le responsable de nombreux autres travaux qui ne pouvaient se terminer que si lui-même avait accompli parfaitement le sien. Même en supposant qu'il n'était pas riche, Joseph, père nourricier de Jésus, n'était cependant pas pauvre. Il vivait dans une maison à Nazareth. Et c'est dans celle-ci qu'il retourna après son déplacement vers Bethléem. Une autre légende affirme que lorsque les mages se présentèrent devant Jésus, celui-ci était encore dans la crèche. De toute façon, lorsque les mages, guidés par une étoile, c'est-à-dire par un ange, car selon la définition biblique, il ne peut s'agir ou bien que d'un astre ou d'un ange, donc lorsque les mages arrivèrent devant Jésus, ils se trouvèrent non pas devant un nouveau-né, mais déjà devant un petit enfant qui vivait dans une maison et non pas dans une étable. Voici d'ailleurs le récit que donne Matthieu quant à l'ange et au mage. L'étoile qu'ils avaient vue en arrivant marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Réfléchissez deux minutes et vous comprendrez très bien qu'il est impossible qu'une étoile, un soleil, puisse faire cela. Je reprends la lecture du récit biblique. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ainsi donc, ces trésors offerts par les mages furent mis à la disposition de Joseph pour qu'il puisse élever Jésus convenablement. Comme je vous le démontrerai au cours des semaines à venir, Jésus, la parole, est l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est lui qui a inspiré tous les écrits de la Bible, ainsi que toutes les prophéties, y compris celles qu'il concernait. Ces prophéties expliquaient, entre autres, toutes les souffrances qu'il allait endurer à la fin de son ministère, ainsi que la façon dont il serait mis à mort. Alors qu'il avait 12 ans, Joseph et Marie se rendirent à Jérusalem pour la Pâque et la fête des pains sans levain, et après cela, ils reprirent le chemin de Nazareth, croyant que Jésus étaient avec leurs compagnons de voyage. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent vers Jérusalem, et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Et comprenons bien ce que Jésus explique à sa mère. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» À l'âge de 12 ans, Jésus sait déjà qui il est. Il sait qui est son véritable Père. Par conséquent, il connaît la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est-à-dire être le sauveur de toute l'humanité, être celui qui mourra d'une mort horrible pour tous, après avoir porté nos souffrances, nos douleurs et nos maladies. Oui, il savait cela dès sa 12e année. la description que les diverses prophéties donnent de ses souffrances et de sa mort. Suffirait à décourager tout autre. Mais plus il avançait en âge, plus il avait un caractère ferme, courageux, audacieux, énergique et volontaire. Vouloir le représenter comme un efféminé avec de longs cheveux, le dos légèrement voûté, voire même timoré, est encore une fausse image de lui. En parlant des scribes et des pharisiens, il n'hésite pas à les traiter d'hypocrites, de serpents, de races de vipères. Jésus était un homme fort et endurant. Il aurait pu ne pas aller jusqu'au sacrifice final. Décidé de laisser tomber cette humanité qui, elle, n'a jamais cessé de le rejeter. Le choix de mourir ou de se désister de son rôle de sauveur du monde était le sien. Mais il avait un but. Et il ne s'en est pas écarté, malgré bien des tentations. En parlant de sa vie qu'il était sur le point de sacrifier, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Son sacrifice et ses souffrances furent volontaires. Il est mort pour que nous puissions être justifiés par son sang et être réconciliés avec Dieu. Il a souffert pour que nous puissions être guéris de toutes nos maladies. Lisez cela vous-même, lisez cela dans votre Bible et méditez les versets qui figurent notamment dans Ésaïe 52 et 53, sans oublier le chapitre 2 de la première épître de Pierre. Le grand point que peu de chrétiens comprennent, c'est qu'il faut se repentir et se convertir, il faut cesser de vivre dans le péché qui est la transgression de la loi. Une loi que beaucoup croient être abolie alors que le Christ a été très catégorique sur ce point en disant « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus a accompli la loi, cela signifie qu'il l'a mise en pratique pendant toute sa vie, rejetant le péché, car le péché n'est rien d'autre que la transgression de cette loi éternelle et immuable. Il nous a laissé un exemple que nous devons suivre, mais qui se soucie aujourd'hui de la loi divine? Avant son arrestation, il a affirmé qu'il avait gardé les commandements de son Père, et si vous voulez devenir disciple du Christ, vous devez en faire autant. Il y a encore des vérités à rétablir sur les légendes qui ont toujours circulé à son sujet, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Vérifiez tout cela dans votre Bible, découvrez le vrai Christ. Ne me croyez surtout pas, rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et qu'une seule vérité. Recherchez-la cette vérité, elle vous affranchira. Vous pouvez recevoir ce texte gratuitement et sans frais, en écrivant à Le Siècle à venir, boîte postale 1360, 1000 Bruxelles. Je répète cette adresse où vous pouvez écrire, Le Siècle à venir, boîte postale 1360, 1000 Bruxelles. C'est Jean Carillon qui vous parle et qui vous dit à bientôt, bonne semaine à tous et à toutes, que Dieu vous garde.